Salut, c'est Jean-Loup et comme d'habitude sur Après la bière, on va parler de numérique, d'intelligence artificielle et de démocratie. Ce qui va suivre, c'est la bande audio de la quatrième vidéo d'une série de 6 vidéos réalisées avec la chaîne YouTube La Fabrique Sociale. Dans cette série, intitulée Moloch quand la tech nous submerge, on explore de manière critique le côté obscur et les impacts négatifs de la technologie sur la société moderne, notamment ceux dus à la diffusion sauvage des intelligences artificielles génératives. Ce quatrième épisode a pour titre La métacrise, le problème fondamental de l'humanité. Bonne écoute! Le réel problème de l'humanité est le suivant. Nous avons des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et une technologie divine. On a vu dans l'épisode précédent que l'humanité était en train de dessiner les contours d'un monde dont personne ne voulait et que c'était une situation difficile à résoudre. En fait, on fait face à ce qu'on appelle des problèmes d'action collective, c'est-à-dire des situations collectivement dramatiques qui sont simplement causées par le fait que chacun ait un petit peu priorisé son intérêt à court terme. Ces problèmes d'action collective, c'est ce qu'on a appelé Moloch. On a vu également qu'on avait a priori réussi à terrasser ce diable des problèmes d'action collective pour le premier problème environnemental planétaire auquel l'humanité avait eu à faire face, le trou dans la couche d'ozone. La question que de nombreuses personnes se posent aujourd'hui, c'est celle du titre de ce papier. Est-ce que le changement climatique, ça n'est pas l'ultime tragédie des communs? En référence évidemment au célèbre livre La tragédie des communs d'Hardin. Et on va voir qu'en fait, c'est vrai qu'on est aujourd'hui face à la tragédie ultime des communs.
One way of framing it is that we are smack dab in the middle of a global scale civilization level collapse.
Mais c'est pas le climat. C'est pas que le climat. La tragédie ultime que nous allons devoir déjouer, elle englobe la crise climatique, mais ne s'y résume pas. Ce qui est en danger aujourd'hui, c'est tous les communs nécessaires à la stabilité de notre société globalisée actuelle. Alors oui, un climat à peu près stable en fait partie. Mais on peut aussi considérer qu'un système informationnel assez sain pour qu'on puisse potentiellement prendre des décisions et agir de manière cohérente à l'échelle planétaire, c'est un commun. Pareil pour l'équilibre géopolitique où les nations ne cherchent pas l'annihilation les unes des autres en permanence. Et cette liste n'est même pas exhaustive. C'est tous ces communs-là qui sont en jeu.
Il y en a marre de tous vos problèmes plus gros les uns que les autres, là. On a déjà résolu la crise de la couche d'ozone, faut tout simplement refaire pareil.
Alors oui, peut-être, mais il faut réaliser à quel point les problèmes d'action collective auxquels l'humanité globalisée fait face aujourd'hui sont un peu comme le boss final de Wario. Ils incarnent toutes les techniques des boss précédents, mais en plus rapide, plus puissant, plus précis. Comme tout boss final, c'est quasi impossible de le battre du premier coup, et pourtant, dans cette partie, on n'aura qu'un essai.
Bon, les dépressifs, vous allez encore faire une vidéo sur tous les problèmes du monde? Ça suffit maintenant, on veut des solutions, on voit les cheat codes.
Et non, c'est pas vraiment un jeu et personne n'a la main sur la simulation. Donc il n'y aura pas de cheat code, on va devoir faire ça à l'ancienne. Mais oui Arthur, bien sûr qu'on parlera dans les deux derniers épisodes de comment on voit les choses et de ce qu'il faudrait faire selon nous. Ça vaudra ce que ça vaudra et surtout ça sera très subjectif. Mais avant ça, on se doit d'essayer de comprendre encore un peu plus finement le problème si on veut avoir une chance de ne pas être totalement hors sujet et naïf dans les propositions qu'on va faire. Et franchement, quand t'as qu'un essai pour résoudre un problème aussi complexe, c'est pas stratégique d'y aller au hasard et les yeux fermés.
Ce qui rend les problèmes d'action collective actuels beaucoup plus difficiles à résoudre que celui de la couche d'ozone, c'est ce qu'on pourrait appeler la profondeur du problème collectif auquel on fait face. Comme on l'a vu dans l'épisode 3, c'était assez facile de trouver un substitut au CFC, le gaz qui détruisait la couche d'ozone. On n'avait pas à changer nos usages, notre routine ou notre rapport au monde pour trouver une solution à ce problème d'action collective. C'était ce que les anglophones appellent un no-brainer. Aujourd'hui, pour lutter contre le changement climatique ou bien les conséquences d'une course à l'intelligence artificielle, il nous faut modifier en profondeur notre système. Et ça, c'est pas évident. Pour utiliser un mot à la mode, il nous faudrait changer les paradigmes même de notre système. Mais c'est quoi les paradigmes de notre système? Et pourquoi ça nous met dans un bordel que certains appellent la métacrise?
Bienvenue dans le quatrième épisode de la série Moloch, quand la tech nous submerge.
C'est parti. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale voit un boulevard de prospérité s'ouvrir devant elle. Les États-Unis sont les grands gagnants de la guerre et vont pouvoir dessiner les contours d'un nouvel ordre mondial. De nouvelles institutions internationales sont créées pour maintenir la paix dans le monde. Le commerce se développe entre pays sur la promesse d'un enrichissement économique partagé par tous. L'idée, c'est que la paix remplacera la guerre puisque la croissance économique bénéficiera à tous. Autrement dit, c'est facile de ne pas se taper dessus si le gâteau économique est plus gros pour tout le monde.
Et donc en période de croissance, il n'y a pas non plus de mauvaise politique. Distribuer du rap de sucette, n'importe quel crétin y arrive, c'est assez facile.
C'est le paradigme qui est dessiné par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis en tête.
You smell that? What is that?
What?
What's that smell?
A cologne?
No. No. Money.
Oh, okay.
Le problème, c'est que la croissance n'est pas gratuite. C'est pas un cadeau qui tombe du ciel. La croissance, ça a des externalités, comme les gaz à effet de serre ou les innovations technologiques. Donc en fait, pour être plus précis, le paradigme post-Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt la croissance, mais sans se soucier des externalités qu'elle engendre. Et ce paradigme atteint désormais ses limites. Sans régulation, les conséquences négatives de la croissance sont tellement importantes qu'elles remettent en question la possibilité même d'une croissance. C'est la contradiction interne de notre paradigme actuel. Ce paradigme transforme tout ce qu'il touche en crise et plonge l'humanité dans ce que certains appellent la métacrise, c'est-à-dire une crise sous-jacente entraînant une multitude de crises et pas seulement un effondrement écologique. Et c'est pourquoi on risque de passer de l'ordre mondial au désordre. Pour mieux le comprendre, on va essayer d'explorer les différentes facettes de cette métacrise. Et la première, c'est notre puissance technologique exponentielle. En 1945 a marqué la première utilisation de la bombe atomique.
I don't know if we can be trusted with such a weapon.
Pour la première fois, une arme pouvait détruire la civilisation humaine. Moins d'un siècle plus tard, les bombes sont toujours là et elles se sont démultipliées.
Jesus Christ, what a shitty neutrino bomb. It's a miracle I ever actually destroy anything.
C'est que notre addiction à la croissance nous pousse à inventer à peu près toutes les technologies imaginables. Et la vitesse de développement de nos technologies a tendance à s'accélérer. Comme a pu le souligner la loi de Moore, qui postule que le nombre de transistors par circuit électronique double tous les 18 mois. Sauf que plus nos technologies sont puissantes et facilement disponibles, et plus les problèmes d'action collective que nous générons ont des conséquences graves et potentiellement irrémédiables à l'échelle planétaire. C'est le cas avec le développement de l'intelligence artificielle que nous avons tenté d'analyser dans l'épisode 2. Cette technologie est non seulement extrêmement puissante, mais aussi ultra démocratisable. En fait, l'IA est une technologie unique dans le sens où elle nous permet d'améliorer toutes les autres technologies dont nous disposons.
Computation can be applied to make better drones, better bioengineering, better nuclear weapons, better propaganda, better marketing, better financial systems, better chips to make better AI systems.
Ces pouvoirs peuvent être utilisés de manière positive, mais aussi de manière négative.
Everything that makes it successful is exactly what makes it dangerous.
Quel visage a un monde dans lequel Monsieur Tout-le-Monde dispose d'un pouvoir aussi important?
So I can do whatever the f*** I want in here now, right?
Yes, sir. Here are all our military secrets and all classified information. This is the drone program. In there, you can kill anyone on Earth remotely. Here's the keys. Bye.
Cette dynamique vers des technologies toujours plus puissantes et accessibles à toujours plus de monde est extrêmement difficile à arrêter. Le problème d'action collective se joue notamment sur deux plans.
D'abord au niveau des entreprises, qui ne veulent pas perdre des parts de marché. Et puis au niveau des États, qui ne veulent pas perdre le rapport de force sur l'échiquier international. C'est ce même problème d'action collective qui rend la question climatique très difficile à résoudre. Une entreprise qui se contraint elle-même à internaliser correctement ses émissions de CO2 est vouée à disparaître. De la même manière, une nation comme les États-Unis qui adopterait une politique climatique réellement ambitieuse perdrait immédiatement un avantage stratégique sur un État comme la Chine si celle-ci ne se prêtait pas au jeu. À chaque fois, c'est Moloch, le diable des problèmes d'action collective, qui rend la situation ultra difficile à résoudre.
In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Le paradigme de la croissance nous pousse à augmenter notre puissance à des niveaux jamais atteints grâce au développement technologique. Mais pourrait-on, avec notre fabuleuse intelligence collective, mettre nos cerveaux en commun pour maîtriser ce développement ?
Palmer, what's up?
Not quite certain, sir, but it's messy.
Notre environnement informationnel, dirigé par le même paradigme, est lui-même pollué par nos technologies exponentielles. Alors que l'humanité est au carrefour de son destin et que nos choix n'ont jamais eu autant d'importance, l'information sur laquelle on base nos choix n'a jamais été aussi fragile. Internet, les réseaux sociaux, accompagnés de l'intelligence artificielle, créent des industries de désinformation toujours plus importantes.
So the disinformation industry is a relatively new phenomenon, which effectively distorts reality and spreads online propaganda.
Et on sait très bien à quel point ça fragilise nos institutions démocratiques. Une étude réalisée par l'institution américaine More in Common a récemment montré que plus les citoyens américains consommaient de médias, moins ils étaient capables de comprendre leurs co-citoyens. Si les citoyens d'un pays sont incapables de s'accorder sur un minimum de faits, alors le modèle démocratique perd tout son sens. Le débat se transforme en combat de coq, puis en insurrection au repas de Noël.
You pulled a gun on our son, Randy.
He pulled one on me first, Sharon.
Because you wouldn't talk to me, Dad.
Stanley, let your mother and I deal with this.
Si les États-Unis sont incapables de s'unir eux-mêmes, alors comment pourraient-ils unir le monde? Et de toute manière, qui le peut? Les problèmes de désinformation peuvent s'aggraver avec l'avènement de l'IA générative qui peut nous faire basculer définitivement dans l'ère de la post-vérité. Un monde dans lequel nous ne pouvons plus rien croire. Un monde dans lequel on ne peut plus informer nos choix. Mais là, on reste dans une société dans laquelle les gens cherchent au moins à faire sens du monde. Et ça n'est pas forcément la direction que nous prenons. Notre attention est de mieux en mieux captée par l'industrie du divertissement, ce qui a tendance à nous détourner des problèmes planétaires.
Our media, which of course have become virtually worthless as an information system, because they're an entertainment system, they're not an information system.
I'm so glad we're friends. So you're single in Paris?
Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, ce phénomène est également un problème d'action collective extrêmement difficile à résoudre. Et les conséquences sont très graves.
Le paradigme de la croissance sans prise en compte des externalités négatives, appliqué au système informationnel, fait qu'il nous est de plus en plus difficile de faire sens du monde à l'échelle planétaire. Nos technologies de communication nous plongent toujours plus loin dans une crise culturelle qui affaiblit notre capacité à affronter la métacrise. Pour le dire en une phrase, notre paradigme appliqué à la technologie nous rend de plus en plus puissants. Et le même paradigme appliqué à l'information nous rend de moins en moins capables de maîtriser cette puissance. Et tout ça à l'échelle planétaire. Et c'est ça notre problème fondamental. Le décalage grandissant entre la puissance conférée par le duo technologie-énergie et notre capacité à réagir aux problèmes complexes qu'elle génère. Comme le dit Oncle Ben,
« With great power comes great responsibility. »
Nous avons un pouvoir de désordre et de chaos de plus en plus grand, et ce pouvoir ne s'est pas accompagné de la sagesse, des institutions ou d'une culture planétaire à même de le gérer. Et changer la raison d'être de notre système complexe, c'est tout sauf facile tellement toutes nos actions, à tous les niveaux, sont conditionnées pour aller dans le sens de ce paradigme. Comme le résume Donil Amidoz dans son excellent livre à propos des systèmes complexes « Penser en système », ce à quoi les systèmes complexes résistent le plus, c'est justement au changement du paradigme qui les anime. Mais ce gap, on peut penser qu'on l'a déjà comblé. À chaque fois qu'on a inventé une technique, le feu, l'agriculture, la machine à vapeur, Internet, on a créé du désordre auquel on n'était pas prêt, et puis on a fini par le résoudre. Et on n'arrête pas de recommencer.
Bah voilà, c'est ça la solution. On continue comme avant. On laisse faire l'évolution. On s'est bien adapté aux changements qu'on a nous-mêmes provoqués par le passé. En fait, l'évolution, elle résout elle-même les problèmes qu'elle crée.
Eh bien, si seulement c'était aussi simple. Le problème, c'est que là, on est à un tel stade qu'on en est à modifier les conditions de vie sur la planète. Donc c'est un peu une première à l'échelle de l'humanité. À la vitesse et à l'échelle où on change les conditions de vie sur la planète, déjà l'évolution biologique, pour la plupart des organismes, dont nous, s'est râpée. Par exemple, le type de vision des vertébrés, celle qu'on a, c'est 100 millions d'années pour qu'elle émerge. Donc pour les problèmes actuels, l'évolution biologique, faut oublier. En 2030, on n'aura pas à développer un système de transpiration alternatif adapté à la vie dans un sauna. Dommage. Mais justement, les groupes humains ont inventé quelque chose qui évolue plus vite que la génétique et qui permet de s'adapter plus rapidement aux nouveaux environnements, la culture. Et effectivement, on peut inventer dès aujourd'hui des cultures, des manières de vivre qui nous semblent davantage respecter les limites environnementales actuelles. D'après certaines études, l'évolution culturelle a accéléré au cours de l'histoire humaine, comme un symptôme de la course à l'échalote humaine. Plus nous changeons notre environnement grâce à notre pouvoir technique et énergétique, plus nous nous adaptons rapidement aux changements que nous-mêmes provoquons. Mais si on veut s'adapter culturellement aux changements actuels, il va falloir qu'on ait une adaptation culturelle beaucoup plus rapide que par le passé.
Par exemple, au milieu du 15e siècle, l'invention de la presse à imprimer de Gutenberg faisait naître un nouveau droit, celui d'imprimer et de diffuser de la connaissance à une vitesse et à une quantité jusque-là impossible. On a dû attendre plus de 400 ans, quelques guerres de religion et autres désagréments, avant que notre culture développe un outil pour réguler la diffusion d'une publication. Donc il y a 400 ans, entre la diffusion de l'imprimerie et la première loi sur la liberté de la presse en 1881.
Bon, mais clairement, il y a un enjeu de rapidité. On n'a certainement pas 400 ans devant nous pour réguler les algos de recommandation, les LLM et les émissions carbone. Et ça, au niveau planétaire. C'est un challenge stratosphérique. Et puis, il vaudrait mieux qu'on évite l'équivalent aujourd'hui des guerres de religion au 16e siècle.
Et franchement, parfois, je me dis, une bonne guerre, ça remettra un petit peu de réalité aux ados TikTok, là, et on repartira sur de bonnes bases.
Alors, cet argument, on l'entend pas mal. Et il n'est pas complètement dénué de sens, mais il est inutilisable. Tout d'abord parce qu'on n'a jamais le luxe d'une guerre. Il n'y a qu'avec le recul qu'on se permet de considérer les choses avec autant de hauteur. On n'est pas des historiens en 2080 tirant les leçons d'un conflit atroce qui éclata en 2027. On est en 2023. Notre but doit être de faire au mieux pour éviter le pire. Pour empêcher, comme disait Camus,
que le monde se défasse.
Ensuite, parce qu'on est aveuglé par le biais du survivant. On a toujours l'impression que l'humanité sort indemne des guerres. Car nous sommes tous et toutes issus des cultures qui ont, par définition, survécu aux guerres. Sauf que rien ne dit que ce qu'on chérisse survive à la prochaine. Et puis parce qu'avec la puissance de frappe actuelle de l'humanité, il n'est pas dit qu'une guerre ou qu'un délitement de la société à grande échelle ne soit pas le dernier événement de l'aventure humaine. L'issue de l'humanité pourrait dépendre de notre capacité à combler ce gap. Alors du coup, quelles sont les trajectoires possibles pour notre espèce ?
Actuellement, on pourrait dire que l'espèce humaine joue au bowling avec son propre avenir. Bon, on le sait bien, faire un strike au bowling, c'est difficile. Sur chaque côté de la piste, il y a ce qu'on appelle des rigoles. Les rigoles, c'est des sortes d'attracteurs sombres qui veulent absolument nous faire foirer notre coup. Tirez un peu trop à gauche ou à droite, et votre boule terminera dans les abysses de votre club de bowling. Et bien pour l'humanité, le problème est un petit peu le même que pour le joueur de bowling, mais avec un enjeu un peu plus important. Les choix que l'on va faire dans les prochaines années pourraient bien sceller l'avenir de notre espèce. Si on est maladroit, notre boule peut tomber dans la rigole de gauche. C'est le scénario chaotique, dans lequel l'humanité n'a pas réglé les problèmes d'action collective dont on a parlé. C'est un peu le scénario Mad Max, dans lequel les ravages de la crise climatique s'accélèrent, et dans lequel notre environnement informationnel a définitivement basculé dans l'ère de la post-vérité. Notre boule peut également tomber dans la rigole de droite. Pour résoudre des problèmes d'action collective extrêmement difficiles à résoudre, un système de surveillance généralisé est mis en place. Histoire par exemple de diminuer les risques liés à la croissance technologique et à sa démocratisation.
Please tell me those cars aren't empty. I mean, Jesus fucking Christ, please tell me that those Chinaman's cars aren't empty.
C'est pas hyper sexy.
Si on veut éviter les deux scénarios décrits précédemment, il va falloir être précis comme un joueur de bowling qui joue pour la première fois et qui tente de faire un strike du premier coup. Il nous faut un nouveau paradigme qui nous permette de vaincre Moloch et de résoudre nos problèmes d'action collective. Et ça, on en parle au prochain épisode. Et bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo et la série tout entière vous plaisent, likez, activez la cloche pour nos deux chaînes, Après la bière et La Fabrique sociale, partagez, parlez-en et surtout, venez discuter avec nous dans la section commentaires.